Bonjour à tous, bienvenue à Fan & Co. À Fan & Co, la collégiale de la FEN, on en est au numéro 374, et c'est un numéro particulier. Jean-Marie Lutringer n'est plus. Nous présentons l'ensemble de l'équipe, présente ses hommages à sa famille, à ses proches. C'est quelqu'un qui était à nos côtés très tôt dans l'aventure de format radio et de la FEN, qui avait la gentillesse de donner toute son expertise. Et sa compétence pour hausser le niveau des émissions, il nous manquera. Et donc, pour lui rendre hommage, nous avons décidé de mettre en ligne sa dernière émission, de façon à ce qu'on puisse l'entendre une dernière fois à nos côtés.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Fen & Co. À Fen & Co, la collégiale de la FEN, on en est au numéro 332. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on n'a pas encore abordé et qui a son importance dans les entreprises parce que c'est un sujet et une pratique qui s'impose, c'est la médiation. Est-ce que la médiation a à voir quelque chose avec la formation? Qu'est-ce que la médiation d'abord? Et donc, on va pouvoir aborder ce sujet avec Jean-Marie Lutringer. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Stéphane.
Un vrai plaisir de te revoir. Ça fait trop longtemps qu'on n'avait pas enregistré ensemble. Alors, on démarre de suite. Qu'est-ce que c'est que la médiation, pour ceux qui ne connaissent pas?
La médiation, c'est un mode de régulation de différends, de conflits non judiciaires, non contentieux, à l'amiable pour régler un différend qui peut arriver dans toutes sortes de relations, dont celle qui nous intéresse ici. De la formation professionnelle. Voilà. Donc c'est ça le point le point de départ, c'est une manière non contentieuse de régler des différends qui peuvent survenir, qui peuvent surgir. Alors pourquoi
Alors, c'est beaucoup utilisé dans les tribunaux pour désengorger les tribunaux. Donc, mais est-ce que finalement, c'est utilisé dans les entreprises?
Oui, de les entreprises, oui, enfin, toutes les grandes structures, que ce soit les banques, les
Bien sûr.
assurances, tous les grands groupes ont des fonctions de médiation
Absolument.
auxquelles on peut s'adresser. Mais ici, ce qui
Jusqu'à
m'intéresse.
la République, qui a le médiateur de la République.
Absolument, oui, absolument. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est l'usage, l'arrivée de la médiation dans l'univers de la formation professionnelle. Comment ça se manifeste, quel est son intérêt, comment les choses se passent. Donc, c'est là-dessus que
Oui,
je
exactement. Alors,
propose
quel est l'intérêt?
de se centrer. Ben, l'intérêt, s'agissant de la formation tout au long de la vie, c'est déjà la distinction à opérer entre l'andragogie et la pédagogie. La pédagogie, c'est la formation des enfants, c'est des incapables au sens juridique du terme, on décide tout pour eux, ils ne sont pas partie prenante à la construction de leur programme de formation pédagogique, bon, il faut qu'ils absorbent, voilà. L'andragogie, c'est la formation des adultes. Or, un adulte est une personne juridiquement capable. Et il n'y a pas de rapport de formation, de relation de formation entre un formateur et un apprenant adulte qui ne repose pas sur un contrat pédagogique, c'est-à-dire quel que soit le financeur. Il y a un contrat du financeur qui dit, moi je finance le tiers payant, que ce soit l'entreprise, Pôle emploi, que sais-je d'autre, mais derrière cela, il y a un contrat écrit ou non, mais en tous les cas, il y a un contrat entre le formateur et l'apprenant. Et l'apprenant est un adulte
Absolument.
et est un sujet capable. Et par ailleurs, il n'y a pas de formation qui vaille sans participation, sans intérêt et sans participation de l'apprenant lui-même à ce processus. Il a par conséquent le tout à fait compétence et le droit de s'exprimer en cas de différends qui peuvent survenir à l'intérieur de la relation pédagogique en tant que telle. Et donc,
Est-ce que pendant le XXe siècle, on n'a pas considéré que l'apprenant, même adulte, était infantilisé en
ah ben non,
disant,
mais bien sûr.
on lui donne pas
Ah
l'apprenant.
oui, le logiciel implicite sur lequel on est. C'est toujours celui, mais c'est pour ça qu'on l'appelle la pédagogie, c'est la formation.
Exactement.
Le modèle implicite, c'est celui du système scolaire, c'est-à-dire c'est une institution et tu es sous tutelle à l'intérieur de cette institution et tu n'as rien à dire.
Ouais, exactement.
Ou quasiment pas. Bon, on dit qu'il y a de la souplesse et qu'il y a de la pédagogie participative, mais en réalité, tu n'as rien à dire. Le programme est établi par l'institution, tu l'appliques, tu la suis, etc. Voilà. Alors que pour l'andragogie, la formation des adultes, c'est quand même radicalement différent. C'est radicalement. Ça c'est une différence tout à fait importante. Et puis l'autre différence, même s'il s'agit de la formation des salariés en tant que tels, dans le rapport de travail, le salarié est en situation de subordination juridique. C'est-à-dire l'employeur lui dit, voilà comment tu dois faire le boulot que je te demande de faire, et donc il exécute son travail. Mais lorsque le salarié est en formation, il a non plus la relation avec l'employeur, mais la relation avec le formateur, même si son contrat de travail continue d'exister. Mais il est pour partie suspendu et le formateur n'est pas un contremaître. N'est pas un contremaître. Et donc là, il y a une relation qui se crée entre l'apprenant et le formateur sur le processus d'apprentissage et la relation pédagogique, qui n'appartient pas en cas de différend, en cas de difficulté de fonctionnement. La responsabilité n'appartient pas à l'employeur, mais c'est la relation contractuelle. Alors, voilà. Et donc,
Et
c'est
donc,
ça.
où intervient la médiation dans tout ça?
Alors, où intervient la médiation? Alors, il y a d'abord un mouvement de fond du développement de la médiation tous azimuts dans tous les domaines d'activité, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Alors, s'agissant de la formation professionnelle, il faut distinguer la médiation institutionnelle et la médiation contractuelle, conventionnelle. Et dans la médiation contractuelle, il faut également distinguer la médiation liée à la consommation, au droit de la consommation, et la médiation liée au processus d'apprentissage et de formation lui-même. Alors, les médiations institutionnelles, c'est par exemple Pôle emploi, maintenant France Travail, un médiateur national qui s'occupe de toutes les questions depuis une bonne dizaine d'années. Il fait chaque année un rapport. Et certes, il y a beaucoup de questions qui portent sur la rémunération, sur la réglementation, mais de plus en plus sur la formation et la manière dont se passe la formation. Et dans le dernier rapport du médiateur de Pôle emploi France Compétences, France Travail, qui est paru
Travail.
en avril dernier, il a un chapitre sur les dysfonctionnements concernant la relation pédagogique, pour lequel il est saisi. Et autre médiateur ou médiatrice institutionnelle, ben France Compétences. À France Compétences, il y a une médiatrice maintenant depuis 2 ou 3 ans, qui en est à son troisième ou quatrième rapport, et qui traite notamment les questions liées au conseil en évolution professionnelle, conseil professionnel, et les questions liées à la reconversion, au projet de transition professionnelle. Et elle a énormément de questions concernant à la fois, bien évidemment, les questions de réglementation et de mauvaise coordination entre les systèmes de financement, de prise en charge, mais également des questions concernant les rapports entre le conseiller la personne qui vient le voir, le conseiller en évolution professionnelle, et des relations entre formateur et l'apprenant. Là, elle n'a pas compétence pour cela. La compétence appartient aux organismes de formation. Alors, s'agissant des organismes de formation, l'AFPA, par exemple, a depuis 10 ans un médiateur. Il en est à son 10e rapport. La première année, dans le rapport, il y avait du médiateur, il y avait des remontées sur la rémunération, dans les centres AFPA où les gens étaient logés, la nourriture n'était pas bonne, enfin, des choses purement matérielles.
Mais alors, qui peut
Dans son
solliciter
dernier rapport, 50% des saisines du médiateur concernent la relation pédagogique.
D'accord, oui, c'est tout à fait bien.
conserve donc une montée en charge progressive. Et ça concerne notamment la qualité du formateur, sa compétence, le non-respect du référentiel de formation. Et il y a une tendance également à des saisines collectives de stagiaires. Ce n'est pas un stagiaire qui dit je ne suis pas content, il y en a plusieurs, des actions collectives.
D'accord. Donc,
Voilà.
et alors,
Donc,
une
l'éducateur
fois.
de l'AFPA a réseau, c'est-à-dire ça transite d'abord par la hiérarchie, etc., mais il lui arrive, je ne sais pas combien, 400 saisines par an concernant les questions de relations pédagogiques. Donc,
Donc, tout le monde peut le saisir, que ce soit l'apprenant, le formateur, enfin tout le monde. Une fois qu'il est saisi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un rapport en disant il y a ça qui
ah
va
ben non, il étudie le dossier, il voit si absolument, et il propose une médiation
D'accord.
à l'amiable, c'est-à-dire il est à l'écoute de manière totalement extérieure, indépendante, et il dit, ben voilà, quel est voyons, essayons d'objectiver ça, enfin, vraiment, c'est une fonction de médiation, c'est-à-dire un traitement amiable, externe, sans avoir le moindre préjugé. Quant aux personnes impliquées. Et voilà, il essaie de décrypter un petit peu tout ça et il fait une proposition, trouve une solution amiable et sinon, il remonte les litiges dans son rapport et le soumet. Il est indépendant à l'intérieur de l'AFPA, mais la question. Le rapport est soumis à la direction générale. Pareil pour France Compétences, elle est indépendante. Son rapport est remis également à la médiatrice, c'est-à-dire les médiateurs institutionnels renvoient le rapport à la médiation, à la défense des droits, pour voir si éventuellement ça peut donner lieu à des modifications juridiques, de législation, de financement, etc.
Et c'est très bien parce
Par
que...
ailleurs, un autre institutionnel que j'oubliais, qui est vachement important, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Il y a
oui,
une
bien sûr.
fonction de médiation à la Caisse des dépôts et consignations qui traite toutes sortes de questions liées à l'activité de la Caisse et qui a eu l'an dernier, je ne sais pas combien, un millier ou plus de saisines concernant le CPF, la formation. Alors, pas sur la relation pédagogique, mais sur l'accès au droit. Donc la médiation institutionnelle traite principalement l'accès au droit. Par contre, à l'AFPA, comme c'est un centre de formation, la médiation peut porter sur le respect des droits, mais également sur la relation interne entre formés et formateurs. Voilà. Et donc, il y a maintenant, depuis une dizaine d'années, du matériau, une expérience est en train de se construire. Voilà, donc ça, c'est la médiation
Institutionnel.
institutionnelle. À côté de cela, il y a la médiation contractuelle et il y a la qualité de la formation. Aujourd'hui, dans Calliope, il y a les 7 critères de Calliope. Sur 7 critères, 2, le critère 3 et le critère 7 renvoient à la médiation. C'est-à-dire que tous les opérateurs de formation sont en principe tenus d'avoir un médiateur, soit interne, soit un médiateur de référence. Et la fédération, par exemple, l'ancienne fédération de la formation professionnelle, les acteurs de la compétence, ont délégué cette fonction puisque il y a des professionnels de la médiation, il y a un syndicat, ils sont organisés, il y a des formations de médiateurs. Et ils ont confié cette mission à un médiateur de la consommation externe.
D'accord. Mais en général, quand ce sont des petits organismes de formation, bah,
Absolument.
c'est le dirigeant.
Ah non, 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 non.
Non, c'est forcément quelqu'un
Ah
d'extérieur.
non, 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 que le dirigeant traite ces questions, mais c'est une fonction de médiation externe. Il faut que dans le contrat de formation, d'ailleurs, dans les contrats personnels de formation, lorsque la personne finance elle-même sa propre formation, il y a une clause qui dit, dans le contrat, qu'il faut laisser obligatoirement mentionner un médiateur
D'accord.
auquel on peut s'adresser. Alors la question devient d'autant plus importante maintenant que s'agissant du CPF, il y a un reste à charge de 100 euros. Donc la personne est cofinanceur de sa propre formation. Elle est intéressée au titre du financement et pas seulement au titre de la relation pédagogique.
Bien sûr.
Le développement du co-investissement fait également que la personne qui utilise son CPF, qui fait une formation, sa propre initiative dans le cadre d'un co-investissement, est intéressée à la fois par la relation pédagogique, mais également par le fait qu'elle est financeur, au même titre que France Compétences ou Pôle emploi sont intéressés en tant que financeurs. Voilà. Et donc, on a la médiation institutionnelle et pour les organismes de formation, la médiation contractuelle. Alors, les gros organismes peuvent éventuellement, s'ils sont en réseau, se mettre désigner un médiateur ou alors sous-traiter à un médiateur de la consommation ou un médiateur
Bien sûr.
professionnel. Voilà. Et l'intérêt de tout cela, le fond, c'est que une médiation bien comprise, de mon point de vue, contribue à la qualité de la relation pédagogique. L'idée, c'est pas de dire on va toutes les 5 minutes aller en médiation, mais lorsqu'un désaccord ou une mésentente ou quelque chose, un problème de communication ou un litige survient, qu'on puisse, avant que ça ne s'empoisonne, s'adresser à une compétence, à quelqu'un dont c'est le métier, pour traiter la question, quoi, de manière amiable et de manière non contentieuse. Donc c'est différent des formules dites de délégués de stagiaires et de réclamations. Voilà, de toute manière, dans les règlements intérieurs des organismes de formation, mais c'est
Et
plein de questions.
comme tu le disais très justement, comme dans toutes les réclamations, comme dans toutes les situations, les retours d'expérience sont extraordinaires. C'est parce que ça nous permet de dire, bah, il y a peut-être quelque chose qu'on avait oublié, et donc
Mais
ça
bien
nous permet
sûr.
de le prendre en compte et donc d'être meilleur, en fait.
Voilà, et souvent, donc beaucoup de différends peuvent être liés à la communication, des choses pas bien comprises, etc. Ça permet de les aplanir. Et donc, il ne s'agit pas de chercher la petite bête en permanence, mais c'est un mode de régulation, c'est-à-dire en complément de la régulation de la formation par la régulation financière, de la régulation par la qualité. C'est un mode de régulation qui donne la parole dans la relation pédagogique elle-même, au sein de la relation, à l'apprenant, pour favoriser le tête-à-tête entre le formateur et l'apprenant. Donc c'est un espace qui n'appartient pas aux financeurs directement. Or, pour le moment, le système qualité est conçu pour les décideurs et les prescripteurs et les financeurs. Ce qui les intéresse, c'est que ce soit conforme à leur stratégie globale. Mais la personne, en gros, ils n'en ont pas grand-chose à cirer, quoi.
Ouais, complètement. Et
Or,
l'avantage, c'est quand il y a un bug entre les deux, quand le formateur ou l'organisme de formation et l'apprenant rentrent en conflit, parce qu'il y a des inquiétudes, il y a des peurs qui sont légitimes, bah, une tierce personne permet de reposer tout à plat et de chercher des
absolument.
façons de tisser ensemble des solutions pour les deux parties.
Voilà.
Tu disais qu'il
Oui,
y avait une troisième partie?
c'est tout à fait ça la question. Alors, il y a un domaine spécifique où la médiation prévue également par la loi intervient, est plus compliqué, c'est dans la pédagogie de l'alternance, puisque là, la médiation doit porter à la fois sur ce qui se passe dans le CFA et dans la relation de travail au sein de l'entreprise. Et la loi a confié aux chambres consulaires, chambres de commerce, industrie, commerce, agriculture, artisanat, une fonction de médiation s'agissant des relations internes à l'entreprise, c'est-à-dire sur le contrat de travail.
D'accord.
Le contrat d'apprentissage. Contrat d'apprentissage. Mais ils n'interviennent pas à l'intérieur de la relation pédagogique ou un autre mode une autre forme de médiation est susceptible d'intervenir. Mais c'est un sujet un petit peu plus compliqué. Donc, pour résumer, cette fonction de médiation s'installe petit à petit comme mode de régulation de la relation pédagogique qui lie un apprenant adulte et un formateur et qui vient en complément de la régulation financière, de la régulation administrative, etc. Et qui est fondée sur l'écoute et le traitement amiable de litiges qui peuvent survenir. Et donc, on a une médiation institutionnelle et de plus en plus maintenant une médiation, disons, contractuelle, qui est à la charge des opérateurs de formation, quoi.
Alors, justement, quand on a envie d'avoir un médiateur, comment est-ce qu'on le choisit? Il y a des labels, il y a des. Comment est-ce qu'on.
Il y a des labels, il y a une organisation professionnelle des médiateurs. Dans la note que je t'ai passée, je dois la citer. Ou sinon, dire pour quelqu'un qui s'intéresse à la question, juste pour une première approche, outre le fait de lire ma chronique, mais qui est juridique, mais je donne quand même pas mal de références. Moi, je suis rentré là-dedans. Il y a quelques années, en rencontrant le médiateur de l'AFPA.
D'accord.
Je ne savais même pas ce que c'était, que ça existait. Et donc, l'une des approches, c'est d'aller sur le site, par exemple, de l'AFPA ou de France Compétences ou de Pôle emploi, rapport du médiateur. Et il y a un site qui donne les rapports de tous les médiateurs. De lire un rapport de médiateur dans le domaine de la formation, ça permet de voir celui de l'AFPA, par exemple.
Et ça assure une
Et l'autre
transparence aussi.
approche, un peu plus globale, je suis allé sur simplement Wikipédia, médiateur, médiation, et il y a plein de choses, et notamment on y donne les références aux professionnels de la formation.
Absolument.
Et c'est une approche pas juridique et plus diversifiée. En 20 minutes, on arrive à se faire une idée du phénomène. Donc moi j'ai fait le focus sur notre univers, quoi, celui de la
Bien
formation.
sûr.
Pourquoi ça prend, pourquoi ça se développe, comment ça se développe, et surtout ce qui m'intéressait, je suis intéressé à la question en lisant le rapport de la Cour des comptes sur la qualité de la formation, qui fait une critique du système Calliope. En disant la qualité pédagogique n'est pas suffisamment prise en compte. Et je me suis dit, c'est quoi la qualité? Comment on prend en compte la qualité pédagogique? Et en y réfléchissant un peu, je me dis, la qualité pédagogique, si l'apprenant lui-même ne peut pas s'exprimer sur cette question, c'est qu'il y a une faille quelque part. La qualité pédagogique, ce n'est pas un fonctionnaire, un financeur, un prescripteur extérieur. Et ce n'est pas seulement le fait de trouver rapidement un emploi. C'est tout à fait autre chose. C'est une autre relation. Et donc, comment aborder la question de la qualité pédagogique de manière un peu nouvelle et de manière un petit peu originale. Et donc, le raisonnement, c'est il y a nécessairement un contrat. Sur la relation pédagogique, relation interne, qui ne concerne ni l'État, ni l'employeur, ni le financeur, donc concerne par rapport à l'accès, par rapport à la sortie, mais pas la relation elle-même. Et la relation elle-même, ce n'est pas une relation qui a vocation à aller devant le juge, ni un corps. L'autre question, c'est est-ce qu'on met en place un corps d'inspection? Puisque dans l'éducation, formation initiale, c'est un corps d'inspection. L'inspecteur est assis au fond de la salle, hein, dans la salle de classe, il observe l'enseignant, Et ensuite, il fait son rapport, c'est un bon enseignant ou pas. Et on n'est pas dans cette relation en formation d'adulte. On ne va pas mettre un inspecteur au fond de la classe. Et ce n'est pas non plus l'inspecteur de l'apprentissage qui traite le rapport, c'est autre chose. Et donc, si on ne met pas un inspecteur au fond de la classe, comment on fait? Et donc, je me dis que toute relation pédagogique repose sur un contrat pédagogique. Et parmi les clauses de ce contrat pédagogique, il y a une clause qui dit, en cas de différence de différend entre le formateur et l'apprenant, les deux parties conviennent de s'adresser à un médiateur pour aplanir ce différend. Et
Absolument.
voilà. Et donc, c'est une
Et
clause.
ça permet de donner une nouvelle liberté à l'apprenant
Ah non, mais bien sûr.
qui reprend la parole s'il y a besoin. Toi,
Ben, bien
tu
sûr. Et...
conseillerais à tous les organismes de formation de s'affilier avec un médiateur pour dire s'il y a un problème, n'hésitez pas à l'aborder.
Ben voilà, oui,
Ouais.
bien sûr, bien sûr.
Très
Et
bien.
mon idée dans la proposition juridique que je fais, c'est que dans tout contrat de formation figure obligatoirement une clause de désignation d'un médiateur en cas de litige. Tout comme dans les contrats commerciaux, on désigne un tribunal compétent. Là, on dit, en cas de litige entre nous, il y a un médiateur, on convient tous les deux de s'adresser à un médiateur et de prendre en compte ce qu'il va nous dire, quoi.
Ça coûte cher un médiateur?
Ah ben, je ne sais pas, je n'ai pas regardé cette question-là.
Donc, bah, les gens iront chercher, mais c'est intéressant de voir aussi, parce que si ça, pour des petits organismes de formation, c'est surtout au cas où il y a un problème, et
Alors,
donc
ah bien
on
sûr.
anticipe et en régulant ça, comme ça, les problèmes, il n'y en a plus, il n'y a que des solutions.
Absolument, voilà. Voilà
Donc,
le sujet.
aujourd'hui, les organismes de formation utilisent beaucoup la médiation.
Non, je dis que les grands réseaux, les gros organismes, oui, les consulaires, oui, les plus petits organismes, ceux qui sont adhérents à la aux acteurs de la compétence. Les acteurs de la compétence ont pris un contrat de groupe, c'est-à-dire
Oui, très bien.
tous leurs adhérents, moyennant une petite cotisation supplémentaire, j'imagine, enfin, ou c'est lié à la cotisation, l'adhésion, je ne sais pas exactement dans le détail. Enfin, je dis deux ou trois choses dans ma chronique là-dessus. Enfin bref, ils proposent ce service à leurs adhérents.
Et c'est très
Pareil,
bien.
le Synovdes a la
Très
même
bien.
approche. Et donc c'est ça qu'il faut promouvoir, il faut développer, quoi.
Bien sûr. Et c'est très bien de mutualiser. Ça évite aux petites entreprises d'avoir à faire de la recherche, de trouver
Ah non, mais
des...
bien sûr,
Voilà.
absolument, absolument, absolument.
Moi, j'ai découvert la médiation au Canada, où c'était très développé beaucoup plus tôt qu'en France, parce qu'ils ont une logique qui est très contractuelle. En disant tout s'organise et donc il y a forcément des solutions, alors qu'en France, ce n'était pas notre tradition. Donc c'est une tradition importée, mais ça ouvre des perspectives, ça évite les blocages, tout simplement.
Alors, bien sûr. Non, non, mais tu as tout à fait raison d'insister là-dessus, parce que la médiation... Il faut faire la distinction entre la conciliation, la médiation, etc. Tout cela existe en droit du travail, mais dans le modèle français, fondé davantage sur le conflit, la médiation, c'est de la collaboration de classe, allons à la grève tout de suite, quoi.
Exactement.
Donc, je force le trait, mais par rapport au Canada, c'est cette culture-là qui est dominante. Je me souviens lorsque. Il y a longtemps, j'enseignais le droit du travail aux syndicalistes à l'Institut du travail de Strasbourg. Évoquer la conciliation, évoquer la médiation, oui, bon, bonne grève, et puis faites pas chier, hein.
Exactement. Non, mais tout à fait. Donc, c'est une situation.
Et
C'est là où
donc,
c'est
il y a
culturel.
un changement culturel. Ce sur quoi moi j'insiste, c'est que la relation pédagogique, un, ce n'est pas une relation de travail, Même s'il s'agit d'un salarié envoyé par l'employeur, il y a un espace de liberté nécessaire au processus d'apprentissage. C'est une bulle de liberté. Et donc ça, c'est un premier élément absolument important. Et le deuxième élément, c'est que l'apprenant adulte n'est pas sous tutelle de l'institution éducative comme l'est. Voilà. Et donc, il faut sortir du logiciel qui reste quand même très prégnant. Il faut déscolariser la formation continue, quoi. Et la médiation peut être un moyen en donnant la parole aux apprenants eux-mêmes sur la relation pédagogique et son déroulement, est un moyen de déscolarisation.
Absolument, absolument.
Voilà.
Et une montée en puissance. Et deuxième élément pour l'organisme de formation, c'est un moyen de fidéliser et les apprenants et les entreprises qui les ont envoyés, parce que face à un problème, au lieu de se dire ben, on se sépare fâché, finalement on trouve des solutions et les
Bien
gens,
sûr.
voilà. Et donc ça permet de fidéliser. Et donc en termes de chiffre d'affaires, ceux qui sont intéressés par la performance monétaire, ben, finalement,
Oui.
voilà, exactement.
Et comme tu l'indiquais par rapport au Canada, c'est un phénomène d'évolution culturelle. Une évolution culturelle qui n'est pas spécifique à la formation, elle vient même en retard par rapport à d'autres univers, celui de la banque, celui de l'assurance, celui des grandes entreprises. Mais c'est en train de se développer dans l'univers de la formation professionnelle.
Et comme
Voilà.
tu disais très justement, comme c'est des petites structures, c'est bien que les grandes structures jouent le rôle de grand frère, c'est-à-dire qu'ils ouvrent, ils
Oui, elle
mutualisent.
mutualise cette
C'est
fonction, l'accès à
exactement.
cette fonction-là. Absolument,
Et
absolument.
l'essayer, c'est l'adopter. Très, très bien. Tu voulais nous aborder un autre sujet sur une Annie qui avait échoué. De quoi s'agit-il?
Oui. Le gouvernement a demandé à l'automne dernier aux partenaires sociaux, au niveau national interprofessionnel, d'engager une négociation sur le pacte de la vie, pacte de la vie au travail. Et
Ça recouvrait quoi, le pacte de la vie au travail?
bah, ça recouvrait pas mal de sujets. Ça devait traiter à la fois des seniors, ça devait traiter des seniors, ça devait traiter de la sécurisation des parcours professionnels, de la reconversion, ça devait traiter également du compte épargne temps universel, donc tel, donc toute une série de sujets. Cette négociation interprofessionnelle, la formation, formation, et notamment la reconversion, la gestion des parcours, la sécurisation des parcours, joue un rôle important dans cette négociation. Bon. Et après plusieurs séances de négociation, les organisations syndicales de salariés ont considéré que l'accord n'était pas signable et à l'unanimité, elles ont décidé de ne pas signer. Tant que tel, l'accord, la proposition qui a été faite par le MEDEF et la CPME. Et le problème, c'est que comme il y avait de nombreux thèmes, alors que s'agissant des thèmes de formation professionnelle depuis 15 ans, ça fait une quinzaine d'accords interpro, c'est un thème relativement conséquent. Il n'y a jamais eu de rupture radicale comme ça. Là, l'une des raisons, c'est la multiplicité et des thèmes. Il suffit qu'il y ait un achoppement majeur, notamment sur la question des seniors et la question de la reconversion professionnelle et de la garantie d'emploi à l'occasion de la reconversion professionnelle pour que tout capote, quoi. Et voilà. Donc, l'accord a capoté.
Mais c'est de plus en plus, c'est vrai qu'on fait des accords qui sont un peu fourre-tout, où on met tout et rien. Comme ça, on traite énormément de sujets, mais finalement, on perd l'essence, hormis faire des catalogues. Et donc, c'est intéressant aussi de garder, ça permet une lisibilité et un suivi plus intéressant si on se donne une thématique, même si elle est grosse, en tout cas qu'on
Absolument.
peut suivre. Les seniors, par exemple, en formation, de mémoire, c'est l'âge à partir desquels on ne forme plus en moyenne les seniors, c'est 47 ans.
Oui.
Et donc, ça veut dire qu'après, après 47 ans, bah, jusqu'à ce qu'ils soient à la retraite, ils n'ont plus de formation en moyenne. Mais ça pose un problème d'adaptabilité.
Non, non, mais bien sûr. Oui. OK, donc, échec. Et immédiatement après, l'une des organisations patronales, l'UDP, a dit non, moi, j'ouvre une négociation interpro avec les syndicats qui le veulent. Donc, ils ont fait cavalier séparé, à part, en proposant une négociation sur la reconversion professionnelle et une autre sur le compte épargne-temps universel, donc tel qu'il demande notamment de la CFDT. Et là, ils ont conclu un accord. Ils ont conclu deux accords, un reconversion et un autre CETU, compte épargne-temps universel. MEDEF, CPME ont dit c'est déloyal, de toute manière, vous êtes minoritaire du côté patronal et on fera valoir notre droit d'opposition. Voilà. Donc, les trois textes, MEDEF, CPME et les deux textes UDP, sont dans la nature sans valeur juridique en tant que telle, quoi. Alors, ce qui n'empêche pas, bien évidemment, qu'ils présentent un
Bien
intérêt
sûr.
politique, un intérêt à... Et donc, quel est l'intérêt de ces textes? Mon point de vue, qu'est-ce qui reste à reprendre? Il y a d'abord un premier intérêt, qui est de philosophie politique, c'est que l'échec de cette négociation, c'est également l'échec du modèle social-démocrate, dire qu'il suppose un accord entre un gouvernement réforme sociale, socialiste, réformiste, et des organisations syndicales et patronales, en tous les cas syndicales également réformistes. Donc, c'est l'équilibre entre démocratie politique et démocratie sociale. Et donc, c'est le modèle social de Loris, d'une certaine
Ouais,
manière.
c'est ça.
Là, le modèle social macroniste, c'est du social-libéralisme. Lui, sa préoccupation, il n'a jamais porté dans son cœur la négo interpro. Ce n'est pas à eux de faire la loi, c'est à moi de faire la loi. Allez donc négocier dans les entreprises et dans les branches. Et donc, c'est également non seulement la question multidimensionnelle de l'accord, mais également, je pense, le contexte politique qui fait que dans leur accord, dans les textes même, les trois textes, ils disent on va aller défendre le bout de gras auprès des parlementaires, on va leur proposer des amendements. Donc, ils se sont positionnés comme des lobbyistes, comme du lobbying. Par ailleurs, on peut comprendre que le MEDEF, compte tenu du fait que le gouvernement, la politique économique, la politique de l'emploi du gouvernement jusqu'à présent lui convenait, il n'allait pas se lier les mains en donnant des droits supplémentaires aux salariés. Il préférait aller sans doute faire du lobbying également auprès des parlementaires ou auprès du gouvernement dont il avait l'oreille. Et donc on est passé du modèle équilibre entre démocratie politique et démocratie sociale à un modèle où les partenaires sociaux au niveau interpro sont des lobbyistes, ou font du lobbying. Et eux-mêmes le décrivent comme tel dans leur propre accord. Donc ça, c'est une
Donc,
première étape.
est-ce que c'est la fin pour toi du paritarisme à la française?
Ah ben, je ne sais pas si c'est la fin. Ben là, c'est en tous les cas, c'est un accident.
Oui.
Mais ça dépend de ce qui va
Oui,
survenir,
bien
de ce
sûr.
qui va arriver après la dissolution, là, qui va arriver, là, je n'en sais rien. Et si le patronat a intérêt à accorder des droits dans un accord qui sera repris par une majorité parlementaire, plutôt que de s'adresser directement à la majorité parlementaire. Enfin bref,
Bien
il y a
sûr.
des problèmes. Donc ça, c'est un premier niveau d'analyse. Alors, est-ce que c'est ad vitam aeternam ou est-ce que c'est la fin d'une époque? Il se peut que ce soit la fin de quelque chose. Mais entre-temps, on ne peut plus rien dire sur
Oui.
rien par rapport à la dissolution, de toute manière, tant que les cartes sont pas rebattues vraiment.
Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça a permis, malgré un rejet et un échec de l'ANI, d'avoir des gens qui réfléchissent, qui mettent
Alors,
en idée.
absolument, absolument, absolument. Et donc la question que je me suis posée, j'ai comparé les trois textes, c'est-à-dire qu'est-ce qui... bon, il y a énormément de considérations, notamment dans le texte MEDEF-CPME, beaucoup de considérations méthodologiques, quoi. En fait, c'est quasiment un guide pratique pour les adhérents MEDEF-CPME, des branches professionnelles ou des entreprises. Si vous avez à négocier là-dessus, voilà un peu comment il faut penser, quoi. En gros. Mais il n'y a pas de droit et d'obligation en tant que tel. Une négociation méthodologique, quoi, d'une certaine manière, ce en quoi c'est tout à fait intéressant,
Bien sûr.
évidemment, à observer. Alors que les syndicats, eux, leur problème, ce n'est pas de négocier avec le MEDEF un texte sur la gestion des ressources humaines dans les entreprises. C'est le droit des salariés à faire avancer, à consolider, etc. Et c'est la raison pour laquelle la CGT a lâché assez rapidement. Et parce qu'il n'y avait aucune consistance juridique en termes de droit des salariés. Et donc j'ai essayé, indépendamment de la question méthodologique, qui est tout à fait intéressante, je ne vais pas développer plus que ça, j'ai regardé où étaient des éléments qui, à travers le lobbying parlementaire, pouvaient venir faire évoluer le droit en tant que tel. Et donc là, j'arrive à plusieurs conclusions. Une première, c'est que, ils n'ont pas mis en cause du tout le mode de régulation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait aujourd'hui la contribution financière en 68, ça n'a pas été mis en cause. Ils n'ont pas mis en cause le fait que trois établissements publics, France Compétences, la Caisse des dépôts et consignations, France Travail, soient en charge de la régulation de ça, que les
D'accord.
OPCO soient agréés. Donc, ils sont paritaires, oui, mais plus vraiment. Ils sont sous contrôle étroit de l'État. Et donc, personne n'a réclamé le paritarisme, retour au paritarisme pur sucre, quoi. Et l'autonomie. Donc, ça, c'est un premier élément. Sur le financement, ce qui est intéressant, c'est la diversification des modes de financement. C'est-à-dire, à la fois le crédit d'impôt, le développement du co-investissement, dire il y a une appropriation du CPF, alors qu'à l'origine, beaucoup de DRH disaient le CPF, on l'externalise, ce n'est pas notre problème. Là, c'est une logique inverse qui apparaît très, très clairement. Donc, c'est des lectures comme ça. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant dans le rapport, dans le texte MEDEF-CPME, c'est la manière d'aborder les entretiens professionnels tout au long de la vie, c'est-à-dire en termes de prévention, puisqu'on a aujourd'hui un modèle, dire entretien professionnel tous les 2 ans, bilan tous les 6 ans, etc. Là, ils disent entretien professionnel tous les 5 ans et bilan, je crois, tous les 10 ans, mais à 4 étapes de la vie, de la carrière, de la vie professionnelle d'une personne à 35 ans, à 45 ans, à 50 et à 60, on a des entretiens, bilans et perspectives approfondis. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce que on n'a pas besoin, on ne se forme pas de manière significative tous les 2 ans. Il y a de l'adaptation, ça fonctionne, ça, l'entreprise fait ce qu'il faut, les salariés pareil, mais 35 ans, on a eu une première expérience professionnelle, on se dit je pouvais mieux faire quand même, et il y a une forte demande là, l'expérience montre qu'il y a une forte demande pour monter en gamme de promotion ou de changer d'orientation, etc. Et ça suppose, donc ce n'est pas des formations vite fait sur le gaz, mais des choses un petit peu plus conséquentes. Le rendez-vous de 45 ans, c'est celui que tu évoquais. C'est le rendez-vous majeur pour les seniors, bien évidemment. Parce que compte tenu de l'allongement de la vie au travail, tendanciel, veuillez ou non, bon, à 45 ans, tu as encore 20 ans à tirer.
Oui, exactement.
20 ou 25, tu peux trouver un boulot qui t'intéresse. Bon, et donc, le point clé, c'est le rendez-vous des 45 ans pour construire, ouvrir la possibilité d'un droit solide à la reconversion professionnelle. Dire que tu puisses, pour tout le monde va vouloir le faire, n'ait envie de le faire. Mais celui qui est en situation de le faire doit pouvoir, à son initiative, se dire, j'ai encore 20 ans à tirer, je vais changer de métier et il me faut des ressources pour ça, il me faut 1 an, il me faut 2 ans éventuellement pour changer. Et donc là, il faut du temps, il faut de l'argent pour ça. Or, le compte épargne temps universel, si tu as de l'épargne temps, tu peux l'utiliser là pour une formation de reconversion. C'est ce qui est prévu dans le texte du UDP. Si tu es atteint par l'usure professionnelle, donc il faut ouvrir un peu le champ de l'usure professionnelle, tu peux utiliser les ressources très importantes quand même pour le compte de prévention de la pénibilité, et tu as en plus ton C2P. Et donc il faut que le point clé de la formation professionnelle, du recours à la formation des seniors, c'est le pivot des 45 ans. C'est le pivot des 45 ans. Et là, de dire, bon, tu as ton CPF, tu te débrouilles avec ça ne suffit pas pour un certain nombre d'entre eux. Ensuite, il y a le rendez-vous des 50. Et là, c'est plutôt pour une dernière réorientation éventuellement, pour une adaptation. Il y a le rendez-vous des 60, c'est pour la préparation de la sortie. Mais là, la formation ne joue plus vraiment.
Exactement. Et ce qui est passionnant dans ce que tu dis, c'est que effectivement, quand on a le CAE qui avait fait des études montrant que les seniors, contrairement à ce qu'on pense, ont plein de projets en interne de l'entreprise en disant j'ai appris plein de choses, je veux transmettre, ou en externe en disant bah, il me reste une possibilité de faire un truc que j'ai jamais fait, je suis prêt à me lancer, j'ai encore de l'énergie, etc. Et donc les 45 ans, c'est très important parce que c'est le moment de la bascule, on prépare ces projets-là, et si on est accompagné, ce sont des forces vives. Ce ne sont pas des gens qui tirent au flanc en disant on attend la retraite, par exemple. Ce n'est pas du tout ça. Les deux tiers ont des projets, ce qui est énorme.
Absolument. Non, non, et c'est là qu'il faut mettre le paquet en termes d'allocation des ressources. Ce n'est pas des métiers en tension et ce n'est pas aller on vous pousse, il faut aller vers là. C'est la personne elle-même qui décide
Exactement.
et elle a des ressources à sa disposition. Simplement pour pouvoir les mobiliser, son projet doit être obligatoire, doit être validé par le, doit être, peut être validé. Par contre, si le projet n'est pas validé, sur ses ressources propres, si on a fait fonctionner correctement le compte épargne temps universel, et si elle est atteinte par ailleurs, peut y avoir quand même de l'usure professionnelle, elle peut disposer de ressources, à la fois de ressources en temps, et des ressources financières. Ça renvoie également à la création, enfin à la création d'entreprises, à la construction d'un nouveau projet, etc. Enfin, c'est vraiment l'apport intéressant, je trouve, de l'accord qui n'a pas été signé, MEDEF-CPME, le fait de proposer des âges pivots avec un approfondissement de c'est pas un bilan vite fait sur le gaz, quoi. C'est un travail un petit peu plus sérieux. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement, vachement intéressant et qui mérite d'être valorisé et développé. Alors, dans l'accord U2P, il y a deux accords. Il y a l'accord compte épargne temps universel et il y a l'accord reconversion. L'accord reconversion, par rapport, en comparant avec ce que dit le texte MEDEF-CPME sur la reconversion, qui est très compliqué, il y a la reconversion, la mobilité interne, mobilité externe, avec suspension, rupture du contrat, c'est compliqué. L'intérêt du texte U2P, c'est sa simplicité. C'est-à-dire, il ne crée pas de dispositif nouveau, parce que le drame d'information, de mon point de vue, du point de vue juridique, c'est le jeu de chaise musicale des dispositifs. C'est-à-dire, on a les mêmes ressources de base, le temps et l'argent, et puis on les recompose, on fait, et c'est des dispositifs, voilà. Alors que la chose la plus simple pour un salarié, il y a le contrat de travail, et sur le contrat de travail, on peut greffer un avenant au contrat conclu entre l'employeur et le salarié. Cet avenant peut avoir plusieurs objets, peut avoir pour objet une reconversion interne ou externe, peut avoir, etc. Et donc, ce n'est pas la peine de créer des dispositifs nouveaux, et on peut proa et supprimer, transco, enfin, et supprimer, et on renvoie à un avenant au contrat de travail pour se mettre d'accord sur les objectifs et la manière d'y arriver. Donc ça simplifie, c'est une lecture beaucoup plus simple pour sortir de cet étouffement par les dispositifs, quoi. Donc ça, c'est, je trouve ça tout à fait intéressant. Et puis ce qui est intéressant également, c'est, moi je plaide depuis longtemps pour ça, pour ça que je trouve intéressant, mais en
Bien
plus,
sûr.
c'est le compte épargne temps universel. C'est de dire que la ressource la plus importante s'agissant de la formation tout au long de la vie des personnes, c'est le temps et le salaire de remplacement pendant ce temps-là. Et donc le compte épargne temps universel, il permet toutes sortes de choses, à la fois une vie familiale, une vie sociale, etc. Et il permet également le recours à la reconversion professionnelle, parmi d'autres choses. Donc, ce n'est pas un outil spécifique
Bien sûr,
formation,
bien
mais
sûr.
il a une dimension formation, si la personne le souhaite. Donc, quelqu'un qui avait un compte épargne-temps lorsqu'il rentre dans sa vie professionnelle entre 20 ans et 45 ans, s'il se dit, s'il n'a pas eu d'autres usages avant, ou s'il se dit, bon, je ne vais peut-être pas rester toute ma vie là où je suis, il peut, entre des congés non pris, entre différentes primes, entre des choses qu'il aura mises sur son compte épargne-temps, avoir un viatique, avoir un pécule qui lui permet de dire j'ai une épargne dédiée à un projet personnel qui peut être la reconversion ou qui peut être autre chose et qui, aux alentours des 45 ans, me permettra d'avoir des revenus à peu près comparables à ce que j'ai pour le moment, quoi, pour changer d'orientation, changer de métier.
Et ce qui est passionnant, c'est que ça permet justement de respecter les adultes, les
Mais
prendre pour
oui.
des adultes, en disant, vous avez ce temps, à vous de le gérer, c'est vous qui en avez la maîtrise, et c'est pas, donc c'est une très très belle démarche, ça nous permet de renouer avec ce qu'on disait au début. Merci Jean-Marie, c'était passionnant, vraiment, comme chaque fois d'ailleurs, mais c'est un vrai bonheur de t'entendre parler de ces sujets-là. Merci à tout le monde. Si on veut te joindre, Jean-Marie, pendant les vacances, comment est-ce qu'on fait?
Mais je vais attendre les vacances.
Si on veut te joindre, on te joint sur LinkedIn, sur ton mail.
Oui.
Très bien. Bah, je mettrai ton mail dans les notes de l'émission
Ah
pour ceux qui.
oui, et
Ouais.
puis tu peux mettre la chronique médiation,
Oui,
si tu
absolument, tout à fait. Donc
veux.
ça, pas de souci.
Et celle sur la rupture, celle sur l'échec de la négociation, elle n'est pas encore publiée, elle va être publiée peut-être demain ou après-demain. Mais je t'enverrai
D'accord, très bien, mais je la rajouterai aussi.
la version finale, parce que celle que je t'ai envoyée, il y a encore.
Ouais, j'ai vu.
Je dicte tous mes textes, il y a encore quelques dragonnades dedans, quelques ajustements.
En tout cas, merci beaucoup Jean-Marie.
Voilà.
Excellentes vacances à toi et à bientôt à tous. Bye bye.
Aussi, salut.